复习的啊啊语。
18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio U. Vous écoutez votre quotidien d'info locale, c'est vous qui le dites. Pour notre dernière émission de la semaine, on mélange blues, punk et écologie avec en deuxième partie d'émission une interview de Gilles Clément réalisée par Anton. Gilles Clément est l'invité d'Espace d'Apparence, une association installée à Brest et créée en 2019. C'est une association qui favorise la pratique culturelle et interroge notre relation à nous-mêmes et au monde. Gilles Clément est donc venu à Brest pour échanger avec le public et les étudiants, pour mieux connaître cette figure singulière en quête d'une écologie humaniste et d'appréhender les concepts qui ont contribué à sa notoriété de jardinier planétaire. Hier, il était à la faculté de Victor Ségalin pour une conférence et aujourd'hui, on l'a pu le retrouver à la librairie Dialogue pour une séance dédicace.
Bonjour Gilles Clément, vous êtes jardinier, paysagiste, écrivain, mais je crois que vous préférez le nom de jardinier.
Oui.
Pourquoi ?
Alors, je préfère le nom de jardinier parce que le jardinier est dans l'obligation de travailler avec le vivant. Ça n'est pas du tout l'obligation pour le paysagiste qui peut se contenter d'un dessin, d'une architecture, en ignorant le vivant, malheureusement, hein, parce que c'est devenu un peu ce qui se passe depuis qu'on a abandonné l'enseignement du nom des plantes et des insectes, etc., enfin tout ce qui concerne justement le vivant non humain, dans les écoles de formation de paysagistes. Ça revient un tout petit peu, mais c'est très lent, quoi. Donc je préfère dire jardinier, parce que le jardinier, de toute façon, lui, il est aussi un architecte, si on peut dire, alors là, entre guillemets, paysagiste, mais parce qu'il fait quelque chose qui aboutit à un dessin, alors qu'une fois, il n'est pas réussi, mais il n'est pas parti de cette idée de faire le dessin, mais de produire quelque chose, si c'est un jardin vivrier, ou d'organiser un espace. Et là, il y a quand même un souci de résolution esthétique qui l'oblige à devenir finalement un paysagiste, quoi. Donc je préfère dire jardinier.
Vous le dites, le jardinier est celui qui travaille avec le vivant. Comment est-ce que vous définiriez un jardin ? Le jardin, c'est quoi ?
Un jardin. La définition que je donne au jardin, c'est après que je l'ai fait hier, hein, dans la conférence, c'est après avoir expliqué pourquoi c'est un territoire mental d'espérance, c'est qu'on est toujours en train de faire quelque chose pour le futur. On n'est pas dans la nostalgie. Mais un jardin, c'est d'abord un enclos, ça c'est la définition initiale, et un paradis, on dit ça, hein, c'est pas toujours le cas, le paradis, mais l'enclos, c'est sûr, c'est quelque chose de protégé. En fait, cette protection, elle est pour éviter la prédation et pouvoir produire quelque chose qui nous est d'une première utilité, ce sont les substances vivrières. Le premier jardin, il est potager, il est pour se nourrir. Mais en fait, l'enclos est un peu une illusion parce que le vent, les graines, les oiseaux, tout ça circule, hein. Et ça passe au-delà de l'enclos, ça arrive par en haut, enfin c'est pas... Donc c'est juste une sorte de limite qui va finir par donner une notion de propriété. Là par contre, ça n'a absolument aucun sens, on est propriétaire de rien du tout, mais on a établi ça. Pour l'instant, on en est encore là, hein. Un enclos qui appartient à quelqu'un.
Je vous ai entendu dire une phrase sur laquelle j'aimerais vous faire rebondir. Vous avez dit « désapprendre le jardinage, c'est réapprendre à jardiner ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je ne me souviens plus d'avoir dit ça.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase ?
Alors, vous avez dit « désapprendre ».
« Désapprendre le jardinage pour réapprendre à jardiner ».
Alors oui, désapprendre un jardinage qu'on nous a imposé. Oui, ça oui. Parce que la plupart du temps... C'est quelque chose qui est soumis à une sorte d'illusion de la maîtrise par les outils. Et on fait beaucoup plus de destruction qu'on fait de la protection du vivant. Donc il faut réapprendre à jardiner, mais autrement. plus avec ses mains qu'avec des machines, et quelquefois avec des outils quand même, mais qui ne font pas de dégâts. Et puis comprendre où on est, dans quel sol, quelle est la diversité qu'on a, y compris dans un milieu qu'on ne voit pas, qui est le sol, justement. Donc là, oui, apprendre.
Vous conceptualisez ce que vous appelez le jardin en mouvement. Vous dites en avoir fait l'expérience, je pense, pour la première fois chez vous, sur un bout de terrain dans la Creuse. Quelle est cette expérience et c'est quoi le jardin en mouvement ?
Justement, c'est une expérience, ce n'est pas du tout un concept. Ce n'est pas une proposition qui vient du rêve, de l'esprit, un imaginaire, non. C'est un constat. Et ça part du respect du comportement de certaines espèces végétales qui ne peuvent pas rester en place parce qu'elles sont transportées par justement le vent et les animaux. Ce sont les plantes surtout annuelles à cycle court et dont les graines voyagent. Toutes les plantes qui n'ont pas la possibilité de revivre à partir de leur souche végétative ne se reproduisent que par la semence. Il y a plein de plantes qui se reproduisent autrement, hein. Il suffit de repartir de la souche et c'est bon, quoi. Ça s'appelle les plantes vivaces. Et là, ce n'est pas le cas. Il s'agit des plantes qui n'ont pas ce recours-là. Donc, c'est seulement la graine. Et quand vous avez une graine qui est transportée, la plante, elle apparaît ailleurs. Quand par hasard, elle a une stature fantastique, comme c'est le cas des grandes berces du Caucase, c'était ces plantes-là que je dois le terme de jardin en mouvement, elle transforme l'espace, l'architecture, les perspectives du jardin. Donc j'appelle ça le jardin en mouvement. Mais c'est un constat.
Les plantes voyagent. Est-ce que leur voyage risque d'être influencé encore plus, enfin, être impacté par le réchauffement climatique? Est-ce qu'il va y avoir un déséquilibre?
Oui, bien sûr, il y a des plantes qui se déplacent pour ces raisons-là, parce que le climat change localement. Le Sahara était une forêt. C'est devenu un désert. Donc les espèces qui étaient là ont disparu et sont allées s'installer ailleurs. Et c'est comme ça partout dans l'histoire de la planète. Donc il faut s'attendre à ce que nos frontières, entre guillemets, nos limites climatiques, disons, se modifient. Et par conséquent, que les séries floristiques adaptées au climat où nous sommes se transforment également.
Mais ce voyage donc qui est naturel des plantes, des espèces vivantes aussi, est-ce qu'avec le réchauffement climatique, on pourra constater un rééquilibre de la... Est-ce que la nature a la capacité de se rééquilibrer avec ce changement qui est quand même le fruit de l'humain et qui s'accélère extrêmement rapidement? Est-ce que la nature a la capacité de se rééquilibrer à cette force?
Oui, ça dépend beaucoup des espèces, mais il y en a qui ont besoin du temps et d'autres qui vont extrêmement vite, justement dans des systèmes de mutation et se reproduisent avec un changement du patrimoine génétique adapté à chaque fois à quelque chose qui a changé. Mais ce n'est pas le cas de toutes les espèces. Donc celles qui ne vont pas vite risquent de disparaître, mais pas toutes, quoi, justement. Et... Bon, après, ça prend du temps et c'est vrai que là, il y a quelque chose de violent et qui vient de l'activité humaine parce que d'après ce que l'on sait sur tous les changements de zones climatiques qu'on appelle les biomes, ça a été lent historiquement. Enfin, on n'était pas là, hein. Donc on imagine que ça a été lent et aujourd'hui, c'est très accéléré. Donc ça peut être effectivement dangereux.
Vous avez donc créé des parcs, des jardins dans toute la France, même ailleurs dans le monde. J'imagine que tout se différencie de leur taille, de leur situation géographique et bien sûr de la manière dont vous les avez imaginés. Quelles sont les plantes, les espèces vivantes qu'on peut voir, qu'on peut observer et qu'on ne voit jamais dans les parcs plus conventionnels, si j'ose dire? Vous avez déjà parlé d'une plante, il me semble, au début, la plante du Caucase.
La berce du Caucase.
La berce du
Caucase. Oui. Ben, elle est détestée, elle est interdite. Bon, elle est photosensibilisante. Hein. Si on la touche au mois de juin qui fait chaud et qu'on transpire, on se brûle. Hein. pas, mais bon, on ne meurt pas. Oui, il y a des plantes que je propose et qui ne sont pas dans les listes autorisées et ou qui n'ont jamais été mises dans des jardins. C'est vrai, mais c'est pour des raisons précises. C'est pour parce qu'il y a un emblème. Au domaine du Rayol, par exemple, où on est dans une zone climatique méditerranéenne, les plantes emblématiques que j'ai choisies pour essayer d'illustrer l'identité d'un paysage de la région du monde qui est évoquée, elles n'avaient jamais été plantées en France. Le premier pour l'Australie, il y a une partie importante d'Australie qui est un climat méditerranéen dans le sud. J'ai choisi ce qu'on appelait le Black Boy autrefois, aujourd'hui il s'appelle Grass Tree, c'est un Xanthorrhea. Et ça, ça n'avait jamais été mis dans aucun jardin en France. Pareil avec les Pouillas du Chili, pour, etc. Mais c'est des raisons d'exister. Là, c'est pour évoquer les biomes, le biome méditerranéen mondial. C'est un travail sur justement la notion de jardin planétaire.
Mais est-ce qu'il y a aussi des plantes ou même des animaux, des insectes que vous avez pu observer dans ces jardins en mouvement et qu'on n'avait jamais vu auparavant justement parce qu'il y a une trop grande... l'homme intervient beaucoup trop et peut-être de façon trop violente. Des plantes, des espèces vivantes, tu nous as dit « Ah, c'est quand même assez curieux qu'elles peuvent s'installer dans ces jardins ».
Alors là, il faudrait que je refasse le tour des jardins sur lesquels je suis intervenu. Dans la conception et après dans la... Mais j'ai malheureusement aucun suivi officiel. Donc si j'y vais, c'est parce que ça m'intéresse pour voir comment ça évolue. Mais j'ai pas beaucoup de temps, ils sont quelquefois très éloignés. J'en ai fait un au Chili, j'en ai fait deux en Chine, j'en ai fait je sais pas où. Donc je vais pas aller voir comment ça évolue là-bas. En France... C'est sûr qu'il y a des évolutions, des modifications très importantes, mais presque toujours on évolue vers une diversité qui finit, si, ça dépend comment on gère, mais qui finit par une sorte de friche armée qui va protéger des jeunes ligneux et ça fait des forêts, dans certains endroits, hein, pas partout. Et on voit arriver des choses assez étranges. C'est vrai que le seul espace qui est emblématique du jardin planétaire, du tiers paysage, c'est la partie du jardin planétaire dont les humains ne s'occupent pas, c'est l'île d'Herborance au parc Matisse, est arrivé sur ce socle des peupliers blancs. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là, hein. Vraiment pas du tout, parce qu'il n'y en a pas ailleurs, et c'est forcément un animal qui l'a mis là. Et voilà. Bon. Donc on est tout le temps dans ces surprises, en permanence. Et dans la strate herbacée, alors là, encore plus, parce qu'il y a beaucoup plus d'espèces. Chez nous, notre grande diversité, elle est dans la strate herbacée. Sur les tropiques, c'est plutôt dans la strate arborescente.
Qu'est-ce que vous pensez, en taxonomie, de l'interrègne qu'il y a, qu'on a identifié entre l'insecte et la fleur, qui est de l'œuf ou la poule?
Très difficile de savoir qui est l'œuf et la poule. Moi, je pense quand même que le monde végétal est présent depuis extrêmement longtemps. Sans doute, je ne sais pas si c'est plus longtemps que le monde animal, mais bon, y a une cohabitation quand même. Mais les animaux ne pourraient pas se passer des végétaux. Alors que les végétaux peuvent très bien se passer des animaux, sauf de très rares exceptions. Hein. Ils ont, comme je l'ai dit d'ailleurs hier, une capacité d'autonomie, ils sont autotrophes. Ils vivent avec le pouvoir de fabriquer leur nourriture à partir de l'énergie solaire. Il leur faut un peu de sels minéraux qui puissent dans le sol, et surtout de l'eau, mais c'est tout. Alors que les animaux ont besoin d'aller prendre, c'est des prédateurs. Il faut qu'ils trouvent leur nourriture. Donc il y a énormément d'animaux dépendants des plantes.
Donc ça voudrait dire l'intelligence végétale a enseigné à l'intelligence animale.
mais elle est singulière et elle est beaucoup plus forte que l'intelligence animale parce qu'elle ne se rend pas dépendante. C'est ça qui me laisse penser que s'il y a des catastrophes importantes, ce sont les animaux qui vont d'abord souffrir, quoi. Nous en faisons partie, les animaux.
Dans des espaces délaissés, abandonnés par l'homme, ça peut être des anciennes friches industrielles, militaires, je pense à ça parce qu'ici il y en a beaucoup à Brest, dans ces espaces abandonnés, souvent considérés comme sans valeur et qu'on voudrait réhabiliter, vous au contraire, vous y voyez une vraie richesse. Comment est-ce que vous expliquez ce soi-disant paradoxe ?
Ah ben ça, c'est culturel. On dit que ça n'a pas de valeur parce qu'on ne sait pas s'en servir pour valoriser, pour avoir de l'argent ou avoir une utilité immédiate. Alors ça vaut rien, mais ce n'est pas vrai. Ça a une autre valeur si on regarde les choses autrement. Et en disant, ah ben oui, tiens, il y a énormément d'espèces, c'est très riche, au contraire, biologiquement parlant. Donc ça joue un rôle important sur le maintien d'une diversité qui a des actions positives sur un environnement beaucoup plus vaste que celui-là, que cet espace abandonné. Donc le rôle positif des friches, il est important.
Vous mettez à l'évidence que si l'on veut être raccord avec la nature, mieux vaut le moins toucher au jardin. Je vous ai entendu dire à vos étudiants que lorsque l'on ne fait rien dans le métier de paysagiste, eh bien vous êtes utile à tous. Ne rien faire, c'est par exemple laisser une forêt apparaître. Une question peut-être un peu naïve et innocente que je me pose, comment convaincre des étudiants qui sont peut-être déterminés à faire des choses, bah justement que le plus utile c'est de ne rien faire.
Ben, je crois qu'ils seraient très contents. Ils feraient autre chose de pas dangereux, peut-être faire un dessin pendant ce temps-là, mais qui est une manière d'exprimer sa sensibilité en comprenant comment est justement l'espace dans lequel nous vivons. Et bon, mais prendre le temps et surtout accéder à l'intelligibilité du lieu, ça demande du temps, mais ça permet après, quand on agit, de ne pas faire de bêtises, de choses dangereuses. Donc on n'est pas obligé non plus de dire tout l'espace sur lequel on a la main mise, on va le laisser libre et ne rien faire du tout, non. On peut intervenir, mais pas forcément partout. Et s'il y a des endroits où on n'intervient pas, il n'y a aucune raison d'avoir une culpabilité en disant « Ah là là, j'ai pas pu, j'ai pas travaillé, j'ai pas... » Non, pas du tout. Ça devient une forêt. Hein. Forêt, c'est utile à tous. C'est de l'oxygène.
Vous dites que lors de vos études, vous avez appris deux choses. L'alphabet, c'est-à-dire, donc, je pense... tout simplement nommer les plantes, les classer, s'y intéresser. D'ailleurs, vous dites qu'on perd de plus en plus cet enseignement. Et la deuxième chose que vous avez apprise, c'est tuer. Donc tuer dans le sens du métier du paysagiste. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tuer ?
Ah ben, ça veut dire tuer, faire mourir. Oui. À partir du moment où vous êtes dans le principal, la mécanique de l'exploitation, vous essayez d'avoir le meilleur rendement sur un espace déterminé et toutes les espèces que vous n'exploitez pas, vous les éliminez. Moi, j'ai appris ça quand j'ai fait des études d'ingénieur horticole parce qu'à l'époque, pour être paysagiste, il fallait d'abord être ingénieur horticole. C'est une branche de cette école-là qui allait vers le paysage. Et c'était le début, justement, de la mise en utilisation de produits chimiques extrêmement toxiques. Et d'autres manipulations, les F1, les générations 1 qui sont stériles, pour qu'on puisse ne pas ressemer les graines des plantes qu'on a cultivées, il faut aller les racheter. C'est juste une histoire de fric. Mais c'est vraiment que ça, quoi. Ça, le drame commence vers le milieu du 19e. Bon, j'étais pas né, là. Mais c'est à partir de ce moment-là, quoi. C'est l'industrialisation et le fric, 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 fric. Et on n'a que cette loi qui dirige tout. En ce moment, il n'y a aucun projet politique. Rien. Si ça rapporte, on le fait, ça ne rapporte pas, on ne le fait pas. Ça rapporte, ça tue, on s'en fout. Et là, c'est ça. Exploitation industrielle, ça tue.
Je voudrais conclure sur quelque chose qui s'éloigne peut-être un petit peu de ce qu'on vient d'aborder. Vous êtes certes jardinier, paysagiste, auteur, mais vous êtes aussi artiste. Une de vos œuvres sur laquelle j'aimerais revenir, parce que j'ai eu l'occasion de la visiter et que j'ai beaucoup apprécié par de son esthétique premièrement, mais aussi de sa fonction, c'est la tour à eau, le partage des eaux qui se situe sur le mont Gerbier de Jonc en Ardèche. Bon, certes à quelques centaines de kilomètres d'ici, mais qui d'une certaine manière est relié à la région, puisque c'est à son pied que la Loire prend ses sources et vient se jeter dans l'Atlantique. Est-ce que vous pouvez en dire un mot sur cette œuvre ?
Oui, mais alors c'est une histoire qui date de l'époque où je devais faire un texte pour Pennon, l'artiste Pennon, sur un parcours situé entre le mont Gerbier de Jonc et Vallon-Pont-d'Arc, l'endroit où il y a, le long de l'Ardèche, l'entrée de la grotte Chauvet. Et là, je fais ce parcours, je connaissais déjà la région, et puis bon, je m'extasie devant l'entrée. On m'a fait visiter la grotte Chauvet à ce moment-là, la vraie, hein. Je trouve ça merveilleux, je me dis ouais. Et les hommes de cette époque-là, manifestement, c'était des paysagistes aussi, hein, parce que l'entrée de la grotte, elle n'est pas n'importe où. Hein. Ils auraient pu choisir une autre grotte, dont celle-là, elle donne sur un paysage extraordinaire. Et puis bon, j'arrive au Mont-Gerbier de Jonc. Je monte. Et là, je suis surpris. Il y avait eu 2 mois et demi de sécheresse. Tout était un peu grillé partout dans la région. On était au mois d'octobre. Et début octobre, c'était bizarre, mais enfin bon, ça arrive. Hein. Sauf que là, ben, je trouve une goutte d'eau. Mais presque en haut, pas tout à fait, mais comme ça, ting, ting. Il y a un touriste qui a oublié sa gourde ou quelque chose comme ça. Et puis je reviens et ça continue. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et j'analyse ce mont Gerbier de Jonc comme étant une tour à eau. Il est fabriqué à partir historiquement de la cheminée du volcan qui lui a disparu. Ce n'est que le cœur du volcan, la cheminée, qui est fabriqué de phonolithe, c'est-à-dire une lave très lisse, et sur lesquels se condense l'humidité de l'air. Et je me dis, bon ben voilà quoi, la Loire, elle ne naît pas au pied du mont Gerbier de Jonc, mais là dans la totalité du corps, et finalement peut-être même en haut. Et dans ce cas-là, la Loire, elle va des deux côtés, de l'Atlantique et Méditerranée. Donc je refais la carte de France, et puis j'explique ça lors d'une conférence au parc régional. Et là, les gens me disent « Ah oui, c'est intéressant, là, on va vérifier, qu'est-ce que c'est qu'une tour à eau ?» Et 4 ou 5 ans après, ils me commandent une tour à eau sur la ligne du partage des eaux à mettre parmi d'autres installations artistiques, la mienne, enfin celle-là. Et alors là, j'étais un peu... Là, mais je ne suis pas architecte, moi, je ne sais pas comment... Et je suis allé me renseigner comme j'ai pu, pour essayer de voir qu'est-ce que c'était une tour à eau. Entre-temps, j'étais allé en Mongolie pour faire une étude avec des étudiants de l'école d'architecture de Paris, de Villavillette, et j'ai demandé au désert de Gobi s'il y avait des tours à eau, parce qu'il y en avait probablement autrefois, et dans plein d'endroits désertiques, justement. Eh bien, non, il n'y en avait plus. Bon, bref, je fais un dessin. Je vais à l'Institut de physique de Paris. Je demande aux ingénieurs qu'est-ce qu'ils en pensent. Et me disent, oui, bon, ce ne sera pas très rentable, mais ça peut marcher. Ben, je dis, si ça peut marcher, on le fait. Et j'ai trouvé, par miracle, une équipe qui s'appelle Ellipse, de muraillers fantastiques, qui ont pu tout construire en pierre sèche. Hein. D'après mon dessin, je n'ai rien fait techniquement, je n'ai pas fait un dessin technique de détail. C'est eux qui ont tout monté comme ça, magnifique. Et puis, bon, ça a pris un mois. Et un mois après, pendant tout ce soir, il pleuvait toujours pas, ben, la vasque était pleine. Et on peut la boire, et ça continue, hein, elle est toujours là.
Quelle a été votre émotion quand vous avez découvert l'eau ?
Ah ben, c'est merveilleux, et c'est la preuve, évidemment, je le savais que l'eau est dans l'air. Je l'explique dans la notion de jardin planétaire et la biosphère avec ses limites. L'eau est partout, ici, dans la vie est dans l'eau. Même quand on ne voit pas, il y a de l'eau ici, dans la pièce dans laquelle nous sommes. On ne s'en rend pas compte. Mais on aurait les conditions de condensation, on verrait bien, hein, on aurait des gouttes partout. Donc là, j'ai été très, très ému, bien sûr, et surtout très, très content de voir que, bah, on peut capturer de l'eau, même dans des endroits où on pense qu'il n'y en a pas.
Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions.
C'était Gilles Clément, présent à Brest pour échanger avec le public et les étudiants pour mieux connaître cette figure singulière en quête d'une écologie humaniste et appréhender les concepts qui ont contribué à sa notoriété de jardinier planétaire. Et enfin, pour finir la semaine en beauté, c'est l'heure de l'agenda de la semaine avec Flavie. Coucou Flavie.
Coucou Zoé.
Qu'est-ce qui se passe cette semaine ?
Eh ben, pas mal de trucs, je te dis ça tout de suite. Et yo les petits, pour ce week-end, j'ai un programme plutôt chill pour vous, ambiance fripe, expo et Noël pour changer un petit peu. Demain vendredi, c'est le lancement des marinas de Recou, version hivernale. Elles auront lieu les vendredis 6, 13 et 20 décembre et, comme l'année dernière, c'est un événement magique qui mêle concerts, marché de créateurs, théâtre d'impro, fanfares et bien plus encore. Je vous laisse checker le programme. Toujours du côté de Recouvrance, demain vous retrouverez un vernissage au feu à droite, celui de l'expo Brusin, Brusune, on sait pas trop, un des deux, par le résident Marvin Moal, dessinateur, animateur, illustrateur. Brusin, Brusune, qui veut dire miette en breton, est une installation mêlant vidéoprojection et peinture, mettant en scène des micro-organismes similaires à ceux des abysses. Le Brusin, Brusune, c'est les choses qui restent après avoir mangé, souvent ignorées, puis jetées. Si cela vous intrigue, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Demain, c'est aussi le lancement de la 9e édition de Nuit d'hiver à Landerneau, les fameuses illuminations qui dureront jusqu'au 5 janvier. Donc si vous voulez en prendre plein les mirettes avant, après Noël, vous savez où aller. Samedi, les jeunes insoumis et insoumises de Brest organisent une collecte de vêtements qui seront ensuite renversés à des assos caritatives locales. Ils récoltent tout type de vêtements, mais avec l'hiver qui arrive, les assos ont surtout besoin de vêtements chauds, bonnets, écharpes, mais aussi couvertures et duvets, ainsi que des chaussures et des sacs à dos. Le stand se tiendra à Place de la Liberté à Brest de 10h à 18h. Samedi et dimanche de 10h à 18h, le local des Gorgones organise son tout premier événement au 1 rue Carfotras au programme pop-up friperie et vente de pièces d'art. Et dimanche, vous retrouverez une bourse aux livres dans l'école Guérin où des livres enfance, jeunesse et adultes vous seront proposés à tout petit prix au profit des enfants des écoles à Barnou et Guérin. Et c'est tout pour moi les petits yeux, j'espère que vous trouverez de quoi faire ce week-end. Moi je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même station pour un nouvel agenda.
Merci Flavie. Et nous on se dit au revoir et on se revoit la semaine prochaine, lundi, même heure, même station. Bonne soirée à toutes et à tous.